Bonjour à toutes et à tous, nous voici de retour pour le premier épisode de cette année 2026. Comme vous le savez, nous n'avons pas fait d'épisode début janvier, car nous avons tenu un séminaire en décembre, où nous étions revenus sur l'année 2025 et nos perspectives pour 2026. Par ailleurs, la vidéo du séminaire est toujours disponible sur notre site web, sur la page Média. Aujourd'hui, nous allons donc principalement consacrer notre podcast à un tour d'horizon des marchés, avec notamment un petit focus sur le secteur pétrolier, évidemment, et sur l'Asie et l'Asie du Sud-Est en particulier. Puis nous commenterons ensuite la performance du fonds et nos principaux mouvements depuis le début de l'année. Avant de laisser la parole à Charles et Wojciech, mes petites recommandations habituelles. Je rappelle que ce podcast et l'ensemble de son contenu est le reflet de notre sentiment sur les marchés financiers et est diffusé à titre exclusivement informatif. En cela, il ne constitue en aucun cas une offre ou un conseil pour acheter ou vendre un instrument financier. Et sur ce, je vais laisser la parole à Wojciech qui va nous parler tout de suite un petit peu de la Chine. À toi, Wojciech.
Oui, merci beaucoup, Benjamin. Bonjour à tous. Je vais commencer avec la Chine. Bon, il se passe tellement de choses sur ces marchés qu'on sait pas quoi choisir pour partager avec vous. Mais probablement, on peut commencer avec l'excédent commercial de la Chine sur l'année 2025, parce que les chiffres qu'ils nous annoncent sont quand même assez astronomique, 1,2 trillion de dollars d'excédent. C'est un montant colossal. C'est plus que le PIB de la Pologne, c'est plus que le PIB d'Arabie Saoudite. Et je rappelle juste que en 2018, donc au moment où un tout petit peu les hostilités entre les États-Unis et la Chine ont commencé, nous étions à moins de 300 milliards de dollars d'excédent commercial en Chine. Donc, on a plutôt l'impression que la Chine s'en sort pas trop mal dans cette soi-disant guerre commerciale qui sévit depuis un certain temps. Mais je pense ce qu'on peut tirer comme information principale de ces chiffres, c'est que un tel excédent commercial va probablement permettre à la Chine d'être un peu plus souple sur sa monnaie, qui, selon plusieurs sources, est fortement sous-évaluée. Donc, on peut s'attendre, on ne doit pas probablement s'attendre à une très forte appréciation de la monnaie, mais plutôt à une appréciation progressive de quelques pourcents par an. Ça nous paraît tout à fait concevable. Et vous savez, mon point de vue personnel, et ceci depuis déjà un certain temps, est que finalement, les États-Unis et la Chine, malgré leur rivalité, vont devoir coopérer. Ils n'ont pas le choix. Ils sont trop dépendants l'un de l'autre. Et donc je me dis que la Chine, vu où est son excédent commercial, va devoir réévaluer un peu sa monnaie pour éviter de fâcher les Américains. Et par ailleurs, ça va faire du bien à toute la zone, hein, toute l'Asie, hein, où beaucoup de monnaies sont trop bon marché. Alors, les émergents, dans l'ensemble, continuent de performer mieux que les pays développés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter, puisque la dernière fois que nous avons eu une vraiment bonne performance des marchés émergents face aux marchés développés, c'est en 2017. Donc c'est déjà quand même il y a longtemps. On a eu une bonne performance en 2025 des marchés émergents face aux marchés développés, et 2026 continue sur la même tendance. Bon, il est clair que l'indice est tiré par Taïwan et la Corée, qui sont les deux poids lourds de l'indice, donc l'IA, la technologie sont toujours importants. Mais on note également une bonne performance d'autres marchés, notamment les marchés d'Amérique latine, qui montent forcément avec les matières premières. Et la Chine reste plutôt assez forte également. Donc on constate que petit à petit, ce bull market sur les marchés émergents, il s'élargit en fait. Et nous sommes qu'en début de ce mouvement, parce que je rappelle ici que on pourrait donner beaucoup de statistiques, mais une des statistiques, c'est que la capitalisation boursière des marchés émergents représente environ 15% des marchés globaux, alors que l'exposition ou la proportion des marchés émergents dans les actifs globaux est à peine de 5%. Donc, ne serait-ce qu'ici, pour équilibrer un peu les choses, mais on pourrait très facilement tripler. Donc, on est au début du mouvement, effectivement, de cette surperformance des marchés émergents par rapport aux marchés développés. Alors, un autre point qui paraît assez intéressant à noter, c'est les sociétés pétrolières, hein, qui ont commencé à bouger un peu, qui sont un peu réveillées. Et en fait, compte tenu du fait que l'industrie est fortement sous-investie et que la demande du pétrole finalement est prévue en croissance ces prochaines années, nous pensons que le pétrole est trop bon marché, surtout en relation à d'autres matières premières, à d'autres actifs, bon, par exemple par rapport à l'or, mais bon, il est quand même un peu bizarre de voir que tout a monté dans le système et que le pétrole, depuis quelques années, reste au même niveau. Il est devenu un peu exagérément trop bon marché. Et aujourd'hui, le prix du pétrole ne tient absolument pas compte d'un quelconque problème géopolitique ou bien d'une éventuelle accélération de la demande, si jamais on devait avoir un peu plus de croissance peut-être dans le monde. Et par ailleurs, on a les négociations pour la paix entre la Russie et l'Ukraine qui sont vues comme un facteur baissier sur le pétrole. C'est quand même un tout petit bizarre. Il faut se rendre compte que l'état d'infrastructure énergétique en Russie est de plus en plus mauvais. On ne peut pas s'imaginer que les Russes soient capables de mener une opération militaire très importante, très intense, en même temps investir massivement dans leurs ressources et dans leurs infrastructures de production du pétrole. Ce n'est pas du tout le cas. Et puis il y a le pétrole vénézuélien qui, bien évidemment, ne viendra pas sur le marché en quantité avant plusieurs années d'investissement lourd, encore une fois, si jamais cela devait effectivement avoir lieu. Donc on a ces deux facteurs qui pèsent un peu sur le prix du pétrole, qui sont pas vraiment un vrai argument baissier pour le pétrole selon nous. Et puis on a la production américaine qui était la principale source de croissance d'offres pétrolières dans le monde ces dernières années. Elle stagne, tout au plus, hein, elle stagne. Il faut se rappeler que les gisements de schiste sont en train de s'épuiser à l'état de technologie constante. C'est-à-dire, si bien sûr, si demain on a une révolution technologique quelque part, on reparlera de toute cette situation. Mais si les États-Unis ont pu monter en puissance dans le domaine pétrolier, c'est parce qu'il y avait une grosse révolution technologique dans le domaine de la production, et donc par exemple le fameux horizontal drilling qui a permis effectivement de bien mieux utiliser les gisements de schiste aux États-Unis. Mais depuis, il n'a pas eu vraiment de grandes avancées technologiques, et donc à prix des 60, 70 même dollars par baril, il n'y a pas d'augmentation de production de pétrole de schiste aux États-Unis.
Ok. Merci, Isaac. Et du côté, si maintenant on va de l'autre côté du globe, du côté de l'Inde, il se passe aussi des choses. Et en Asie du Sud-Est, il y a eu pas mal d'événements, n'est-ce pas?
Oui, il y avait des choses. Il y a d'abord effectivement l'Inde qui était faible tout au long de l'année 2025, donc c'était une déception pour beaucoup. Les étrangers sont vendeurs, alors que, et ceci depuis un certain temps déjà, finalement l'exposition des étrangers au marché indien est assez bas historiquement, et les locaux, ils sont un peu plus réticents à acheter. Il faut savoir que les investisseurs indiens ont ouvert un nombre record de comptes de trading, de comptes titres ces dernières années. Je pense qu'on parle de quelque chose comme 150, 200 millions de comptes hein, qui ont été ouverts quand même. Hein. Donc un chiffre très important. Et ceci est dû à un changement de structure d'épargne qui maintenant alloue une plus grande proportion aux actions au détriment de l'or, parce que forcément à 5000 dollars par once, c'est un peu plus difficile pour un petit indien d'un petit village quelque part d'acheter, et au détriment de l'immobilier. Maintenant, il y a un risque que les locaux, qui aujourd'hui en fait pèsent plus que les étrangers sur les bourses indiennes, il y a un risque que les locaux soient déçus et eux, à leur tour, réduisent leur exposition au marché. Pourquoi? Parce que on a une croissance économique au nominal qui faiblit. On a le PIB indien qui sort un peu moins fort et puis l'inflation qui a baissé. Donc tout ça veut dire que probablement les marges d'entreprises indiennes vont baisser un tout petit peu. Et ça veut dire que peut-être les bénéfices par action des entreprises indiennes vont monter moins que ce que le consensus prévoit aujourd'hui, comme exactement la situation que nous avons déjà vue en 2025, c'est-à-dire une déception sur les bénéfices, sur la croissance bénéficiaire des entreprises indiennes. Maintenant, il y a un petit bémol à ça. Avant de dire, je veux juste rappeler que les marchés indiens traitent toujours à environ 22 fois les bénéfices. Donc, on peut pas dire que c'est un marché qui, tout d'un coup, est totalement délaissé et très beau marché. Mais un petit bémol ici. Oui, vas-y.
22 fois, si effectivement ils délivrent la croissance qui est attendue. Parce que si au final ils déçoivent au niveau de la croissance, les 22 actuels, on verra que ça sera plutôt 23, 24 fois les bénéfices.
Exactement, non, c'est tout à fait ça. Il y a juste un seul truc, c'est que effectivement les Indiens, il faut se souvenir qu'ils ne peuvent pas acheter à l'international. Ils sont condamnés à acheter les marchés domestiques, donc ils peuvent pas faire ce qu'ont fait par exemple les Coréens récemment, qui ont massivement investi sur le marché américain. En Inde, ce n'est pas possible. Donc ça joue toujours un tout petit peu en faveur des valorisations plus élevées que les moyennes émergentes pour le marché indien spécifiquement. Après, on a l'Indonésie. Et là, on a clairement constaté une forte correction du marché au mois de janvier, hein, je dis des baisses quotidiennes assez spectaculaires de 7-8%. Et ça, c'est uniquement suite aux annonces de MSCI. Donc, franchement, nous n'avons pas l'impression que macroéconomiquement, l'Indonésie soit un pays à problème. L'endettement est plutôt bien maîtrisé. Le pays dispose de un peu plus de 150 milliards de dollars de réserves de change. La balance commerciale est excédentaire. La politique budgétaire, en tout cas pour le moment, est très raisonnable. Je veux dire, on a un déficit qui est sous les 3%. Je veux dire, quels sont les pays dans le monde aujourd'hui qui ont ce luxe d'avoir 3% de déficit budgétaire? Il est clair que la nomination du neveu de Prabowo, donc du président, en tant que gouverneur de la Banque centrale, ce n'est pas une bonne pratique. C'est pas bien, c'est clair. Nous avons aussi toujours cette histoire de Danantara, qui vous souvenez, ce fonds d'État, fonds gouvernemental, qui est un peu énigmatique. Mais, en même temps, nous avons l'Indonésie qui vient de publier un PIB en croissance de 5,4% au quatrième trimestre 2025. Hein. Donc 5,4%, c'est plus que prévu. C'est tiré par la consommation, par l'investissement. On n'a pas en fait vu un chiffre comme ça depuis plus de 3 ans en Indonésie. Et puis, sur le plus long terme, l'Indonésie est un pays de croissance structurelle. Population 280 millions d'habitants, PIB qui est en croissance nominale de 8 à 9% par an. Hein. On a environ 5% de croissance de PIB réel, et environ 3 à 4% de l'inflation. Donc vous voyez, c'est quand même, ça aide les entreprises à générer de la croissance. Et le PIB par habitant est sur la frontière de 5 000 $ par habitant, qui correspond généralement au seuil de déclenchement ou à l'accélération de la croissance de la consommation d'une manière on a vu ça dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays dans le passé. Donc nous, toute cette faiblesse qu'on a connue en janvier, ça nous a plutôt servi à renforcer nos deux positions. Pour rappel, nous avons Sumber Alfaria dans le portefeuille et Bank Central Asia, qui sont deux très belles franchises, une dans le magasin de proximité, Sumber Alfaria, et Bank Central Asia, qui est certainement la plus belle franchise financière, bancaire, probablement sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est.
Merci, Wojciech. Si on reste dans la région, je crois qu'en Thaïlande, il y a eu des élections législatives qui étaient très attendues, n'est-ce pas?
Alors oui, et là, c'est important parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'instabilité politique en Thaïlande ces derniers temps. Et donc là, nous ne sommes pas du tout des spécialistes de la politique thaïlandaise, mais nous venons juste d'avoir les résultats d'élections législatives et le BJP, qui est la partie conservateur hein, du premier ministre actuel, je vais essayer de prononcer son nom, Charnvirakul.
Magnifique.
Du Premier ministre Charnvirakul, il a remporté un peu à la surprise générale les scrutins et finalement d'une manière assez décisive. Et c'était assez surprenant, parce que bien sûr, parce que les sondages bon, se sont trompés, ils montraient plutôt la victoire moins décisive, une petite victoire du Parti réformateur, qui est le Parti du Peuple, qui est dirigé par un jeune entrepreneur thaïlandais. Et surtout qui regroupe la jeunesse progressiste de Thaïlande, qui, elle, prônait une rupture avec le passé, des réformes de fond de l'État et de l'économie, et qui aussi s'attaquait ou s'attaque à l'influence exagérée du roi en Thaïlande. Donc eux, ils ont malheureusement, ils n'ont pas gagné. Alors que BJP a bien sûr tapé sur les sentiments de souveraineté, protection du territoire, ce qui a très bien fonctionné auprès des populations frontières, auprès des populations conservatrices en Thaïlande, au moment où les relations avec le voisin cambodgien sont au plus bas, on le sait. Et puis, BJP a également un large soutien du roi. Donc ça n'a pas, voilà, ça a aidé aussi un peu, hein. Par contre, les ambitions réformatrices sont bien moindres que celles du Parti du Peuple. Donc, ayant dit tout cela, il y a quand même la bonne nouvelle, c'est que la première fois depuis longtemps, nous allons avoir en Thaïlande une vraie majorité et donc probablement une certaine stabilité politique. La moins bonne nouvelle est que le nouveau gouvernement, ça veut dire plus ou moins la poursuite des politiques menées ces dernières années qui n'ont pas vraiment servi la croissance économique du pays. Donc voilà pour le petit tour d'horizon de nouveautés de ces dernières semaines, ces deux derniers mois. Et je laisse peut-être maintenant Charles commenter sur la performance du fonds sur le mois de janvier.
Oui, merci pour la transition. Oui, donc enfin, je rappelle que le fonds, que le fonds Sable Emerging Market est exposé à certaines tendances de croissance structurelle dans les pays émergents, telles que la croissance des classes moyennes et donc la croissance des services, dont ont besoin ces classes moyennes grandissantes, que ce soit par exemple, dans la financiarisation, dans la santé ou encore dans les loisirs. Ces tendances se concrétisent et bien qu'elles ne soient pas aussi spectaculaires que les niveaux de CapEx annoncés notamment par les hyperscalers américains, ce sont tout de même des tendances qui sont déjà bien présentes et certainement peut-être plus stables et plus durables dans le temps. Et par ailleurs, on a vu aussi certains pays qui ont largement profité des flux entrants liés aux métaux précieux ou aux matières premières en général. Donc, enfin, juste pour donner un exemple, l'indice MSCI Pérou, bon, qui n'a pas beaucoup de constituants, mais tout de même, l'indice MSCI Pérou est déjà en hausse de 26% rien qu'au mois de janvier en euros. Et donc, forcément, bah, ça tire toutes les valeurs péruviennes et la monnaie, même si elles ne sont pas directement liées à l'or ou à l'argent. Donc, d'ailleurs, le Pérou qui a été le marché qui est le qui a été le meilleur performeur sur le mois de janvier. De la même façon, les positions dans les services pétroliers ont connu un regain d'intérêt de la part des investisseurs. Donc, Cheikh a mentionné un peu plus tôt, le prix du pétrole est très bas relatif aux autres matières premières et certainement même en absolu pour permettre les investissements qui sont nécessaires. Les récents développements géopolitiques
comme l'intervention américaine au Venezuela, ou bien les émeutes en Iran, nous rappellent malgré tout que bah, l'équilibre offre et demande reste assez fragile. Comme on a dit un peu plus tôt, on espère l'arrivée du pétrole russe, on espère l'arrivée du pétrole vénézuélien. En réalité, cette addition d'offres demande des investissements et demande une certaine stabilité géopolitique. Alors que de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est plutôt des incertitudes sur l'offre existante. Donc en réalité, ce qu'on a vu, c'est que c'est la hausse de la production du pétrole de schiste américain et parfois, dans une certaine mesure, la production saoudienne, qui ont permis d'absorber les chocs d'offres. Et parce que, en fait, ce sont des zones dont les coûts de production sont extrêmement faibles. Mais aujourd'hui, ces amortisseurs, entre guillemets, semblent plutôt usés. Donc, il n'y aura pas tellement le choix si effectivement la demande continue de croître et elle est attendue en croissance. Un prix plus élevé va être nécessaire pour pouvoir faire les investissements dans le secteur. Et donc, les services pétroliers sont extrêmement bien positionnés. Une réponse un peu longue pour dire que, au final, l'IA n'est pas la seule source de croissance et n'est pas la seule source de performance. Je rappelle que nous n'y sommes absolument pas exposés. D'autres thèmes sont soit plus structurels, soit en début de cycle et le fonds en profite pleinement. Donc on a vu que la NAV du fonds a progressé de 3,9% en euros sur le mois de janvier. Donc comme mentionné, les principaux contributeurs positifs qui ont été les services pétroliers, donc China Oilfield Services en Chine ou SLB qui est une société américaine mais qui est extrêmement exposée au Moyen-Orient et à l'Amérique latine, qui représente les deux tiers de son business, ou Credit Corp, qui est une société bancaire au Pérou. Pour les sociétés de services pétroliers, on a vu une hausse de quasiment 30% en dollars depuis le début de l'année, mais en réalité, c'est un peu une histoire de rattrapage. Et quand on regarde China Oilfield Services, par exemple, continue de se traiter à 8 fois les bénéfices. SLB continue de rendre entre 5 et 6% de distribution de rendement entre les dividendes et les share buyback de distribution aux investisseurs. Et tout ça avant une quelconque amélioration possible de l'environnement avec un prix du pétrole qui serait plus élevé. Donc on reste sur des niveaux qui sont très attractifs aujourd'hui. De l'autre côté, les principaux contributeurs négatifs à la performance sur le mois, on retrouve la société indonésienne, comme expliqué par Wojciech, rien à voir avec la société, les fondamentaux de la société elle-même, mais l'annonce MSCI qui a fait baisser toute la cote indonésienne, donc Sumber Alfaria. On retrouve société chinoise de consommation plutôt liée aux articles de sport et aux vêtements de sport, Anta Sports, qui a publié des chiffres, n'ont pas encore publié les résultats totaux, mais ils ont publié le chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, qui est en ligne avec les attentes, mais des commentaires qui restent plutôt prudents pour l'année 2026. Donc peut-être le marché espérait quelque part une reprise un peu plus décisive sur l'année. Enfin, on retrouve Trip.com, qui est le leader incontesté en Chine des réservations et des voyages en ligne, qui est où le gouvernement chinois a annoncé investiguer sur potentiellement des pratiques monopolistiques, notamment dans la réservation des hôtels pour aider à la que la concurrence soit un peu plus saine sur ce, ou enfin pour aider à la concurrence dans les réservations d'hôtels. Réservation d'hôtel, c'est un peu moins d'un tiers du business de Trip.com et le titre a pas mal corrigé sur l'annonce. Bon, il avait aussi très très bien performé sur l'année 2026, sur l'année 2025, pardon. Donc, on y voit un petit peu aussi des prises de bénéfices de la part de certains investisseurs sur l'annonce, qui ont profité de l'annonce aussi pour peut-être prendre des bénéfices après une très bonne année 2025.
Merci beaucoup Charles. Et peut-être pour terminer, Wojciech, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les mouvements qui ont eu lieu dans le fond et un petit rappel sur le positionnement du fond,
s'il te plaît. Alors, nous avons liquidé notre investissement sur NetEase, qui est un des gens des jeux en Chine. C'est une très belle franchise qui a plutôt bien performé. Nous craignons ici une accentuation de concurrence sur le marché des jeux, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de nouvelles licences, beaucoup de jeux qui ont été autorisés par les autorités chinoises en 2025, qui vont entrer sur le marché en 2026. Ça correspond, vous vous souvenez, il y a quelques années, un mouvement contre les jeux en Chine, et pendant 2 ou 3 ans, on a eu très peu de nouveaux jeux. Probablement, les grands en ont, comme NetEase ou Tencent, en ont bénéficié, c'est-à-dire un environnement concurrentiel moins intense pendant quelques temps. Et là, on s'attend à ce que le niveau de compétitivité monte. Donc un peu par prudence, nous avons décidé de sortir le jeu NetEase, sachant que le titre a bien performé. Sous l'Indonésie, on a déjà parlé, nous avons renforcé nos lignes sur faiblesse du marché. Et nous avons mis le pied sur 2 sociétés en Asie du Sud-Est, une en Thaïlande, qui est Bumrungrad Hospital, qui est une très belle franchise de santé. Probablement un des, si un hôpital peut être sympa et beau, c'est certainement celui-ci, où les infrastructures et le niveau d'accueil qu'offre et d'expertise médicale surtout, hein, au niveau des soins d'intervention médicale qu'offre Bumrungrad Hospital sont vraiment à un niveau très 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 élevé. Nous allons probablement en parler un peu plus tard dans l'année. Et puis BDO, qui est la première banque aux Philippines, qui a fait son entrée dans le portefeuille. Je ne vais pas vous cacher qu'ici on achète un proxy sur le marché entre guillemets, puisque les Philippines ont très mal performé ces dernières années et en 2025. Et le marché tout entier se traite aujourd'hui à 8 ou 9 fois les bénéfices, c'est ce qu'on a rarement vu historiquement. Et pour le positionnement du fonds, je rappelle très rapidement que notre mission principale est de capturer la croissance structurelle des pays émergents, et le fonds est positionné dans ce sens. Les pays émergents, nous les définissons plutôt comme les pays ayant un PIB par habitant inférieur à $20,000, ce qui n'est pas une limite dure, mais quand même une indication de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les pays qui sont à 40 000 sont plus tellement intéressants parce que en fait il y a plus tellement de croissance dans ces pays-là. On le voit aujourd'hui dans les pays comme Taïwan ou Corée, domestiquement, il y a très peu de segments du marché qui ont de la croissance. Bien sûr, les indices taïwanais et coréens explosent, mais c'est pas du tout tiré par la croissance structurelle des économies sous-jacentes. C'est tout à fait autre chose. On sait ce que c'est. Voilà. Et nous gardons une forte pondération sur la Chine. Nous en avons largement parlé en décembre lors de notre webcast. Mais l'exposition sur la Chine a un peu baissé dans le fond. vu tout simplement que le marché a bien performé et que certaines entreprises que nous avons eues ont touché nos prix objectifs et donc par discipline nous les avons vendues, mais toujours est-il que la Chine représente environ la moitié du portefeuille aujourd'hui. Donc c'est toujours une pondération très forte bien évidemment. Amérique latine, c'est le deuxième plus grand poids dans l'indice, dans le portefeuille, 25%, un quart de portefeuille environ. Et puis, on a une légère montée en puissance des pays de l'Asie du Sud-Est, qui aujourd'hui représentent environ 12% du portefeuille, donc l'Indonésie, les Philippines et Thaïlande, vu que plus personne ne s'intéresse aujourd'hui à ces marchés, alors qu'on y trouve des franchises tout à fait sympas, comme par exemple le cité Bumbungvat Hospital en Thaïlande. Voilà, c'est tout de mon côté.
Dans ce cas-là, eh bien, un grand merci à tous les deux, et puis on se retrouve probablement le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci,
à bientôt. Au revoir.
Merci.